France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Quand je mourrai, j'irai au paradis, c'est en enfer que j'ai passé ma vie, chante ici Daniel Darc. C'était en 2008, dans Minuit 10, où Laurent Goumard recevait le chanteur pour la sortie de son album au titre comme un écho au nom de John Coltrane, Amour suprême. Alors que beaucoup le croyaient perdu pour toujours, Daniel Darc était revenu à la surface depuis quelques années avec Crève-cœur en 2004. Un album récompensé d'une victoire de la musique qui avait rencontré un succès aussi inattendu qu'opportun. Rescapé de l'héroïne, libéré de ses démons, de nouveau, Daniel Darc était sur scène, faisait des disques et, auteur inspiré et très demandé, écrivait des chansons pour beaucoup d'autres. Mais son histoire, son corps de rocker prématurément usé, devait bientôt l'arrêter net. En 2013, l'ancien chanteur de Taxi Girl prenait un aller simple pour le paradis, privant ainsi la scène musicale de l'un de ses talents les plus authentiques.
Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
It's not important that I'm Catherine Deneuve. I know he loves me for what I am deeply.
I know because he cares about the little things. He brings my coffee always in a small cup because it is precious to me. He gives me Chanel number 5 because I love to put it in a special place behind my knee. You don't have to ask for it. He knows what you want, Chanel.
Et c'est Catherine Deneuve qui a raison. Bonjour, il est minuit 10, saison 2. Émission sous influence divine, nous sommes en direct et en public du Café Coste Étienne Marcel avec Daniel Darc, titre de son album Amour suprême chez Mercury, Paradis psaume et croix tatouée sur la poitrine pour le Saint-Sébastien des Écritures. Séquence live, trois titres ce soir par l'ex vrai faux jeune homme moderne de Taxi Girl.
Une bande magnétique, un écran géant, c'était Taxi Girl, sous-titre du livre de Pierre Mikhaïlov, Chercher le garçon, paru chez Scali, ou l'histoire d'un titre qui en a foudroyé plus d'un en 1981.
On reste dans les années 80, chronique le cinéma, ses DVD, retour 80s pour Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, sorti DVD chez 7-7, film mauvais genre, sexe, violence et agression et religion avec portrait en creux du New York des années 80. Alors c'est parti, minuit 10 et même pas 2 minutes, on est allé vite. Premier titre en direct du bar du Café Coste Étienne Marcel, Mathieu.
J'irai au paradis.
J'irai au paradis, Daniel Darc en direct, merci.
J'irai au paradis, non ? J'irai.
Sans S.
J'ai creusé un trou, j'y ai enfoui mon cœur. Je le couvre de sang, debout et seul. Et quand je mourrai, dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. Combien de ruptures, combien de blessures. Dans l'enfer que j'ai passé ma vie. quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. J'ai cru être fou. Et ça m'a fait peur. J'ai perdu mon sang. Ma chaleur, son nom est ennui, son nom est torpeur. Je serai loin d'ici, je serai ailleurs. Quand je mourrai, j'irai au paradis. C'est en enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the niggled streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the instant connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty in tatters and tattoo and a hollow high has set up smoking in the supernatural darkness of the city's contemplating jazz. Quand je mourrai, j'irai au paradis. Quand je mourrai, j'irai au... où je peux.
Daniel Dark,
Daniel Dark en direct,
accompagné de Rémi Bousseau au clavier et Alice Beauté à la guitare. Daniel Dark, pourquoi vous avoir choisi cette chanson et surtout, pourquoi dans cette chanson, il y a une partie qui est en anglais, c'est des choses que vous ne dites pas en français ?
Non, on m'entend là ?
Oui, on vous entend très bien.
Ouais, non, il n'y a pas de truc en anglais. J'ai improvisé là. C'est le début de Hold, Allen Ginsberg. Parce que j'avais envie de faire ça. Parce que j'aime pas faire les mêmes choses à chaque fois, donc je change toujours un petit peu de trucs. Je suis assez influencé par non, c'est très prétentieux de dire ça, enfin moi ce qui m'intéresse c'est Adler, Coltrane, tout ça, et j'aime bien l'idée de l'improvisation. Voilà.
Alors on va peut-être juste revenir au tout début de l'émission quand on a lancé Catherine Deneuve, qui peut paraître complètement absurde pour une émission consacrée à Daniel Dark.
Vous l'entendez?
Sauf que le problème, c'est que à vos débuts, en fait, vous avez eu un manager très très étrange, complètement dingue,
ouais.
Et il racontait non seulement que lui, il était fils de Jean-Baptiste Mondino, ça des années plus tard, mais que vous étiez le fils de Catherine Deneuve.
C'est comme ça. Il prétend être Jean-Baptiste Mondino.
Il prétend être Jean-Baptiste Mondino, et que vous étiez le fils de Catherine Deneuve.
Ouais,
ce qu'on aurait tous adoré, Jean-Marc.
J'ai d'abord été le fils de Mireille Dard, puis après il a changé. Enfin.
Ah oui, c'était plus facile.
Ce qui n'est pas très logique, parce que ça serait quand même plus logique qu'il soit le fils de Daniel Dark. Mais non, c'est Catherine Deneuve.
De Mireille. Dark.
Voilà, ce qui prouve bien
la folie de ce type.
La folie de ce garçon. Ouais.
C'est des choses.
Il est en tôle là pour 4 ans, quoi.
À cause justement de.
Bah, c'est pris pour Jean-Baptiste Mondino, ce qui est pas un gros délit, mais simplement. Sauf que toutes les cartes bleues de Jean-Baptiste Mondino s'en est servi pour lui, donc ça c'est plus gênant, quoi. Et il est en cellule à New York, ce qui est
pas très drôle.
Je ouais, pense
qui...
pas.
Que non, je crois que ça serait le pire que vous ayez.
Si on demande de ramasser un savon, faut pas le faire, quoi.
Ou alors,
à part être le fils de Mireille Mathieu, qu'est-ce qu'on vous a prêté?
Non, pas de Mireille Mathieu.
Oh, pourquoi
Mathieu. Catherine Deneuve, vous êtes
Enrico Macias.
Voilà, c'est ça. Et on va tous chanter sur la place
En fait, c'est un Bolivien qui écrit mes textes parce que c'est mon oncle.
Ah, c'est un pseudo que vous avez jamais pris encore, Barbe Olivien.
Non, bah je pensais que j'ai pas le droit, quoi, quand même. Il y a du respect pour des gens.
Mais qu'est-ce qu'on vous a prêté de plus fou, peut-être, enfin, de fou, au point de...
On m'a rien prêté, on m'a tout repris.
Alors, Paquita, quelqu'un vient d'arriver, je vous avais prévu.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qu'on m'a prêté, on m'a repris, je sais pas.
On t'a volé beaucoup aussi, quand même.
On m'a volé, ouais, mais je volais pas mal aussi. Je vole toujours.
Alors,
les cons, ils empruntent, excuse-moi. Les cons empruntent, ceux qui ont du talent, ils volent.
Ils volent.
Mais ce qui est bien, c'est que tu nous as tous appris à voler aussi. Nous avons retenu la leçon.
C'est ce que vous avez fait, vous, Pierre Michaelov, dans ce livre, en fait.
Bah, il faut bien voler, et donc j'essaie de bien voler.
Alors, sur cet album, Amour Suprême, beaucoup de, enfin, pas mal de collaborations avec Frédéric Lowe, qui était déjà présent sur les albums précédents. Steve Neave, qui est le clavier des Attractions, donc qui a longtemps accompagné, qui continue à le faire, Elvis Costello. Et Robert Wyatt, sur Ça ne sert à rien. Robert Wyatt, c'était un peu surprenant de le voir sur un album de vous, parce que c'est vrai qu'on est... a priori un peu loin, enfin moi j'imaginais un peu loin de vos goûts et des personnalités d'artistes que vous aimez bien. Soft Machine, c'est vrai que c'est
Soft
pas
Machine,
tellement Taxi Girl.
J'écoute pas beaucoup Soft Machine, mais Rock Bottom pour moi est peut-être le plus grand disque de tous les temps. Et Six Songs peut-être la plus grande chanson de tous les temps. Et en fait c'était Steve Neave qui est pote avec Robert Wyatt. Il a dit je vais lui faire écouter. Et il était super content, il venait faire de la promo pour son nouvel album, Robert Wyatt. Et donc il m'a dit je passe une après-midi avec vous et puis je vais faire des trucs, vous gardez ce que vous voulez. Et donc voilà, j'étais comme un fou.
Ah, qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement? Parce que ce qui était
moi j'ai rien demandé. Ouais. C'est, j'ai rien demandé. Quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive, je trouve que la moindre c'est pour être décent, on demande pas. Il fait ce qu'il veut.
Et qu'est-ce qu'il a fait précisément? Parce qu'il fait quelque chose d'assez précis dans cet album.
Ouais, il a fait. On a premier couplet, on l'entend pas. Deuxième couplet, on l'entend plus. Troisième couplet. En fait, sauf que moi, je peux pas le faire. Lui, il a le souffle.
Tout un système de respiration, hein.
Ouais. Souffle circulaire. Un peu ce qu'avait fait Gainsbourg avec les pleurs de Birkin pour Je suis venu dire je m'en vais. Et puis il a fait aussi, surtout à la fin, des trucs très très hauts, comme à la fin de Six Songs. Et il a fait une trompette. Mais comme j'avais, enfin. Frédéric Lowe avait fait une trompette puisque c'est écrit Frédéric Lowe, donc je pense que c'est lui qui l'a fait. Avant, ça allait pas, les deux n'allaient pas ensemble, donc il a dit au ça, tu me trop par où tu veux, je m'en fous.
Vous parlez d'écriture et de vol, je crois qu'en fait vous notez, vous écrivez un petit peu tout le temps, en fait, vous notez tout ce qui se passe. C'est quoi la dernière chose que vous avez noté dans vos carnets? Je vous ai pas vu avec deux carnets ce soir d'ailleurs.
Tout dernier truc que j'ai noté, je sais pas. Si ailleurs. Aujourd'hui, je sais plus. Hier, c'était une fille que je trouvais sublime, qui était complètement Bukowski, qui était belle, waouh. Enfin, complètement détruite. Génial. Brune, détruite. Magnifique. Et elle arrivait à 15h dans un café, et elle a dit bonsoir, et j'ai trouvé ça beau.
C'est ce que vient de faire Paquita.
Allez, on est plus 15h, là.
Album que vous dédiez à Jacques Rigaud, alors pas celui qui a écrit le rapport de la commission.
Non, pas celui-là, l'autre.
Pas le patron d'RTL, Rigaud avec un T. Pourquoi avoir choisi cet écrivain-là particulièrement?
Qui a influencé, enfin qui a influencé Thierry La Rochelle, en fait, de modèle pour Thierry La Rochelle.
Ouais, c'est. Il y a la valise vide, puis il y a
Feufolet. Le Feufolet,
bien sûr.
La Dieu Gonzague aussi.
Et la Dieu Gonzague, évidemment. Enfin, c'est surtout. Enfin, les deux façons de voir le truc. Et parce que. Peut-être, pour moi, il est très proche de Roger Gilbert Lecomte, dans un sens où c'est peut-être pour moi les deux plus grands écrivains, parce qu'ils n'ont rien écrit, en gros.
Les artistes sans œuvre, en fait.
Leur vie est une œuvre.
Donc c'est plutôt la fulgurance d'une vie que les... Parce que les écrits, ils ont été publiés assez tard, en fait, résumés chez Gallimard en 70. C'est à ce moment-là que vous découvrez Jacques Rigaud? Vous l'avez découvert plus tard?
J'ai découvert Jacques Rigaud par... La première fois que j'ai lu Il faut follet, ça m'a branché, j'ai voulu, je sais pas, j'avais 12 ans, 13 ans, je sais pas, je voulais savoir d'où ça venait, et voilà quoi, j'ai lu ça.
En fait, vous êtes fasciné par une famille d'écrivains, donc Jacques Rigaud, Drieu La Rochelle, j'ai pu lire aussi que vous aimiez...
Rebattet.
Céline. Rebattet, oui, donc on voit bien vraiment...
Rebattet
aussi, donc toute cette famille de ce qu'on appelle les grands traîtres, en fait, ou la littérature de droite, c'est ça?
Jean Genet, trahison.
Sur la fin de sa vie?
Jean Genet.
La trahison.
Tout le temps.
Mais la trahison.
La trahison? Non, il a toujours, dès le départ, il a mis en valeur la trahison. C'est très très difficile d'être un traître. Très difficile.
Presque les goûts aussi de Dominique de Roux, qui a été l'éditeur de pas mal, enfin notamment de Céline. En tout cas, je me demandais si c'était un auteur que vous aviez aussi suivi.
Céline ou...
Dominique de Roux.
Dominique, non.
Pas du tout. Alors, en plus, vous avez aussi traduit, je crois, en...
Non, on le sait, c'est même pas, je crois, c'est on
le sait. Je suis sûr. Composé de texte de William Burroughs.
William Burroughs, ouais.
À quel moment, comment vous tombez sur ce texte, en fait? Un court texte
publié à la salle de bain.
C'est une...
Un cut-up, en fait.
C'est une... Ouais. C'est, en plus, c'est une grosse galère de traduire ça, on peut, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, tout ça. Mais son secrétaire m'a dit que c'était mieux que l'original. Je pense que c'était faux, absolument. Mais, je suis tombé là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, j'ai pas envie de dire son nom, parce qu'elle se fait plein de trucs sur moi là, en ce moment, et qui m'a proposé ça. Voilà.
C'est-à-dire la directrice de la salle de bain, des voilà, éditions de la salle
ça.
De bain.
Voilà,
donc d'accord.
Marie-Laure
Dagua, la poétesse. Elle se fait plein de fric sur votre dos avec ça.
Non, enfin plein, je crois pas. Un petit peu quoi.
Elle je pense pas qu'elle soit milliardaire non plus.
Je pense qu'elle rêve de s'en faire plein, mais bon, voilà, elle s'en fait un petit peu. Quoi.
Parce que vous avez aussi publié des textes chez elle, vos propres textes.
Ouais.
Par exemple, Ombre Mort. Ouais. Vous avez publié. Ouais. Vous êtes à côté de Christophe Tarkos, de Heitzig, c'est-à-dire de tout. Toute la poésie.
Flexus, machin.
Exactement.
Voilà. Ouais.
C'était une famille, par exemple, Tarkos, Heitzig, une famille littéraire pour vous.
Moi, Daniel Darc. J'étais pote avec Claude Pellieu. Attends, il se passe quelque chose. Alors, pour les gens qui ne voient pas, donc. Il est en train de se prendre la tête avec une.
Ok, c'est tout. Avec une jeune fille sublime, voilà, qui prend les photos, mais voilà. J'ai besoin d'un papier.
Attends.
C'est
ce que je lui demande. Non, j'étais pas avec Claude Pellieu. Et puis.
Qui bossait avec Bourgois. Qui bossait avec Bourgois.
Ouais. Qui a traduit, enfin, qui a adapté avec sa femme Sylvia Beach, qui porte bien son nom. Nova Express, tout le truc, quoi. Et voilà, donc j'étais pote avec lui, puis j'étais pote avec, je connais John Giorno un petit peu, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça.
Comment vous connaissez John Giorno, qui va bientôt arriver d'ailleurs,
John Giorno, justement, c'était Marie-Laure Dagua qui a demandé à John Giorno de venir faire des conférences en France. Et comme elle parle pas un mot d'anglais, elle m'a dit, Daniel, tu peux venir. Et c'est moi qui traduis ça.
Alors, à ce propos d'écriture, on a reçu un mail d'une éditrice qui est aussi romancière, qui est Laure Limongi.
Laure Limongi, voilà. Elle aime beaucoup.
Ah bon, bah alors voilà. Donc, elle nous écrit. Daniel Darc écrit des paroles sublimes, entre parenthèses, est aussi écrivain, entre parenthèses, de livres. Quelle différence y a-t-il pour vous, donc, entre l'écriture d'une chanson et celle d'un livre ou d'un texte Daniel Darc.
Comme le 100 mètres et le marathon. Moi, je suis devant le 100 mètres.
C'est pour ça que vous n'avez jamais tenté le roman. Ou vous l'avez tenté, mais vous n'êtes jamais...
J'ai tenté, puis c'était pas bien. Je vais essayer de me remettre aux nouvelles, maintenant. L'autofiction, c'est de la merde. Ouais, non, Laure Limongi, elle pourra me dire tu. Elle a le droit de me... si elle veut méditer, appelle-moi demain, t'as mon numéro.
Voilà, aux éditions Léo Cher, le prochain texte de Daniel Darc. C'est Marie-Laure Dagua qui va faire la gueule.
Oh bah c'est pas très grave quoi, elle fait la gueule depuis.
Non, je t'ai plus.
Mais je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment quelqu'un que j'aime. Hein.
Autre influence, et ça Pierre Mikhailov vous le rappelez en fait, qui a été en partie à l'origine du titre Chercher le garçon, c'est Raymond Chandler en fait. Ouais, c'est tous les polars. Ça c'est même, je sais plus si c'est extrait de Chandler ou d'un autre polar méconnu de série Z. Mais ouais, ça c'est quand t'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans, c'est un truc.
Mais toujours maintenant, ouais, c'est le premier truc que j'ai lu. Ouais.
Comme tu disais, c'est bien de lire beaucoup de polars, de s'en imprégner, parce que c'est facile de voler dans le polar, parce que c'est des textes faciles.
Ouais,
et tu m'as dit en plus, les mecs sont morts ou alcooliques, donc ils vont pas venir te faire chier.
Ouais, il y a ça
t'attaquer.
Aussi.
T'attaquer. C'est pas mal
bon,
aussi.
Ça c'est quand je vais être un petit peu. Quand je vais faire chier. Oui. Sans ça, en étant sincère, c'est aussi. Ils écrivent incroyablement. Mieux que les soi-disant normaux, quoi. Je veux dire, Ed McBain est fantastique, c'est lui. Toutes les séries américaines depuis 20 ans lui doivent tout. Le fait de dispatcher ce truc en différentes personnes, tout ça. Même en France, ils ont essayé avec PJ, hein. C'est pour dire quand même. Et non, sans ça, ouais. Y a Aldrich, par exemple, s'est emparé d'un truc que. Chandler le détestait, mais James Cain est en quatrième vitesse. Est-ce que c'est James Cain d'ailleurs?
Non, ça doit être ça doit être un mec un peu facho qui a son héros, Mike Hammer.
Non, attends.
Mike Hammer, mais c'est un héros un peu facho.
Voilà,
Mike
c'est
Hammer,
ça. Mais facho, on s'en fout. On est tous facho. Donc t'as raison.
Quelque part.
On est tous facho. Mais sans ça, il y a Lawrence Block et Matt Scudder. Laurence Black avec Matt Scudder, c'est
qui n'a rien à voir avec notre directrice.
Qui n'a rien à voir avec la directrice de France.
La
co-directrice de France Culture.
Non, Laurence. Non, c'est incroyablement pour moi, les séries nord-américaines, la plupart du temps, alors comprend Ahmed Chandler surtout. D'abord, c'est incompréhensible, mais totalement compréhensible. Par exemple, Chandler, quand il a été adapté pour je ne sais plus quel livre, Il y avait Bogart dedans.
Ouais, le Faucon Maltais.
Le cinéaste lui écrit.
Enfin, John Huston,
mais,
ouais.
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. John Huston lui écrit, mais attends, il y a un moment, je comprends pas ce qui. Je comprends pas. C'est incompréhensible ton histoire. Et Chandler a fait vraiment l'effort de relire. Il a dit, bah, je comprends pas non plus. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir l'intrigue. C'est comme une vie pour moi. Un polar, c'est comme un vrai polar, c'est comme une vie. Il y a un début, il y a une fin, il y a plein de merde au milieu, on comprend même pas pourquoi c'est là, on sait pas ce qui se passe. Et Ahmet est le mec qui tue le plus de mecs. C'est plus que le serial killer, lui. Quand tu lis La Moisson Rouge, c'est incroyable le nombre de morts. Dans ça, et Chester Hems, j'ai compris Chester Hems en allant à Harlem. Où tu vois vraiment, même maintenant encore, tu vois des corbillards partout. Les flics et les corbillards, il y a que ça.
Ben, vous faites toute la transition pour la chronique Le cinéma c'est DVD de Jean-Marc Lalanne.
An innocent woman, victim of an unspeakable act.
I'll see you again, I'll be back.
Torn by the shame.
Hey, babe.
Haunted by the terror.
I'll be back.
A woman under pain. Gone mad. A woman's revenge.
Perhaps you'd like to come with me tonight.
A woman's madness.
No!
Chronique Le cinéma, c'est DVD de Jean-Marc Lalanne. Ce qu'on est en train d'entendre, c'est le teaser de L'Ange de la Vengeance. De la Vengeance. Enfin, le titre original est beaucoup plus violent, c'est Rape and Revenge, c'est-à-dire ouais. Viol et revanche et vengeance, ce qui est quand même un peu moins édulcoré que le titre que l'on a donné en français.
Ouais, qui est plus poétique, quelque chose du film malgré tout.
C'est le troisième film, hein, je crois.
Le second film.
C'est le troisième, parce que le premier, c'est un porno.
Vous en savez des
choses. Oui, j'en sais des choses. Le premier, c'est un porno. Le deuxième, c'est une horreur. Enfin,
c'est
vraiment, voilà, un film horrifique.
C'est son second film de fiction.
Voilà, c'est son second film de fiction après le porno improbable voilà. Qu'il avait tourné dans ses jeunes années.
Ce qui est troublant chez Abel Ferrara, c'est que c'est un cinéaste qui, selon les décennies, sa cote critique a subi des variations spectaculaires. À l'époque où il tourne L'Ange de la Vengeance, c'est vraiment un cinéaste dont les films sont quasiment pas vus en Europe, distribués à la sauvette aux États-Unis, qui à la fois distribué dans les salles de quartier, qui connaît un culte vivace, mais en même temps extrêmement underground. Dans les années 90, on se souvient peut-être que tout d'un coup, il y a eu une explosion de sa cote critique à partir de King of New York, avec Bad Lieutenant, ça devient quasiment le dieu du cinéma indépendant américain. Et curieusement, avec les années 2000, sa cote connaît une très très grande récession, à tel point qu'il quitte même les États-Unis parce qu'il n'arrive plus à faire de films là-bas. Il s'installe en Italie, il a beaucoup de mal à tourner. Et le dernier film qu'on a pu voir de lui, qui était à Cannes l'an dernier, une histoire de stripteaseuse avec Asia Argento, n'a même pas été distribué à ce jour. Donc la sortie en DVD de L'Ange de la Vengeance vient à point rappeler à quel point c'est un cinéaste extrêmement important et à quel point ces variations de mode sont tout à fait injustes. Donc en 82, lorsqu'il fait L'Ange de la Vengeance, il a donc fait Driller Killer, l'histoire d'un mec armé d'une perceuse électrique qui va dans la rue pour transpercer les torses des gens qui croisent. Et donc c'est à nouveau un film très violent, L'Ange de la Vengeance, puisqu'il fait le récit de la vie d'une jeune femme muette, extrêmement belle, qui est repasseuse dans une maison de couture et qui un jour, lorsqu'elle sort du boulot, se fait violer une première fois dans la rue. Et en rentrant chez elle, un cambrioleur se trouve déjà chez elle, voyant qu'elle n'a rien à cambrioler, la viole une seconde fois. Donc elle est violée deux fois en cinq minutes, sauf qu'à la seconde fois, elle trouve la ressource en elle de se défendre, et elle s'empare d'un fer à repasser et lui défonce le crâne à coup de fer à repasser.
Alors, ça fait beaucoup rire, Daniel Darc.
Il y a effectivement une dimension de farce macabre dans le film. On rit tout en étant un peu embarrassé et inquiété par le rire que le film procure. Le titre original dont vous parliez, Rape and Revenge, renvoie en fait à un genre de film qu'on appelait le Rape and Revenge. Il faut savoir que le cinéma américain des années 70 a connu une très très grande fortune avec le cinéma de vengeance dont Charles Bronson a été un peu le héros, et il y avait toute une catégorie où un personnage se faisait violer et le récit était la vengeance en général de ce justicier qui réglait le sort au voyou. Voilà, exactement. Et en 82, lorsque Ferrara fait le film, ce genre est déjà un peu déclinant. Toute cette espèce de fiction, d'autodéfense commence à disparaître. Et Ferrara signe le film Terminal, parce que tous ces films, en général, à l'idéologie quand même extrêmement réactionnaire, est fondée sur l'idée que la vengeance est proportionnée à l'offense qui a été faite. Alors que Ferrara déséquilibre totalement cette relation, puisque une fois qu'elle s'est vengée, elle éprouve une telle jouissance à la destruction qu'elle va se mettre à arpenter comme un ange exterminateur les rues de la ville et connaître une espèce d'assomption comme ça dans la criminalité et se mettre à abattre de sang-froid tous les mecs dans la rue jusqu'à finir travestie en religieuse et à battre tous les mecs qu'elle croise dans une fête. Donc évidemment on pense à Taxi Driver de Scorsese, mais dont Ferrara signerait une version complètement baroque et délirante. Alors, le film, outre ces espèces de qualités expressives très fortes, cette nonchalance de récit, ce mélange de nonchalance dans le récit et d'extrême précision dans le détail qui fait toute la beauté du cinéma de Ferrara, est aussi assez bouleversant d'un point de vue quasiment documentaire sur ce que c'était New York en 82, un New York qui a complètement disparu par la suite avec le double mandat à Giuliani où le centre de Manhattan a été complètement nettoyé. Là vraiment il y a une espèce de poésie urbaine sur la saleté, sur une espèce de fun qui erre dans la rue. Il y a une poésie nocturne très 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 forte. Daniel Lark a peut-être connu le New York des années 80 et peut nous...
J'ai connu récemment New York.
C'est vrai ?
Ouais, après que les Américains... Les Américains nous ont fait croire qu'ils... Non, non, je déconne. Non, non, après 2001. Après 2001.
Ah oui.
Ah oui,
je crois que vous aimez beaucoup Abel Ferrara.
Ouais, j'ai une grande affection pour Abel Ferrara. Bad Lieutenant, pour moi, est un film gigantesque. Parce qu'il y a... Il y a tout dedans. Il y a la rédemption. Il y a le pire du pire. Et puis il y a la beauté, il y a un truc sublime quoi, quand le Christ, quand il est défoncé, complètement défoncé, que le Christ arrive devant lui, il bouge, et puis avec les deux blacks qui vendent du crack, et là, c'est la merde là, je vais vous montrer ce que c'est le vrai crack, voilà, et pour moi justement c'est ça, à partir du moment, et malheureusement j'ai bien peur que la vie soit souvent comme ça, à partir du moment où le mec devient humain, où le mec cherche la rédemption, on le crève. Et voilà, il monte dans sa bagnole, et hop, fini.
Est-ce que vous y voyez une forme de mysticisme chez Ferrara ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche à ce niveau-là ?
Moi, j'aime pas le mot mysticisme. C'est un chrétien, moi je suis protestant, c'est un chrétien catholique. Et dans Funerals, dans les funérailles, évidemment, on le voit aussi. Il est obsédé à l'objet, à l'icône, à tout ce qui se passe là-dessus. C'est tout à fait italien, enfin c'est tout à fait latin, hein, en tout cas. Et c'est ce que moi je partage pas ça, mais je comprends. Mais ce qui me touche là-dedans, c'est justement ce que je connais, je crois connaître un petit peu. Enfin, je sais pas où j'ai connu des gens autour de moi, des gens qu'on peut paraître. Qui peuvent paraître les pires des enculés, et puis qui sont très très proches, très très proches d'une salvation complète. Et si je peux me permettre d'aller jusqu'à l'orthodoxie, il y a Saint-Silouane qui a peut-être tué quelqu'un, on ne sait pas. Mais grâce à ça, il s'en est sorti. Les gens qui ne vont pas à l'extrême du mal ne pourront pas retourner à autre chose, ils seront médiocres. Voilà. Je pense, excusez-moi.
Non, non, mais pas du tout.
Non, mais
ce qui signifie que vous seriez allé vous-même à l'extrême du mal ?
Jamais. Mais je pense que c'est comme ça, je sais pas. Je pense que c'est comme ça. J'ai des potes qui m'ont parlé de ça.
Parce que le thème de la rédemption, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'album.
Dans tous vos albums, en fait.
Oui,
et
ouais,
même dans votre parcours.
Plus, paradis, remords, voilà, ouais, ce genre de mots reviennent souvent. Vous avez, on le voit en plus sur la couverture, une croix tatouée sur la poitrine.
Ouais.
C'est lié à une... Vous rappelez que vous étiez protestant. Vous parlez dans le livre de Pierre Mikhaïlov de ma conversion. De quoi il s'agissait comme moment ?
Je me suis mal exprimé. La conversion, pour moi, c'est tous les jours. J'aurais dû dire mon baptême.
Il y a un truc aussi très beau que tu dis. Tu dis que c'est un prolongement. Et tu dis que le protestantisme, c'est un prolongement du judaïsme.
Pour moi, c'est le judaïsme en allant plus loin, oui. Ah, je crois.
C'est super beau, ça. Si je peux me permettre.
Merci. Tu peux te permettre, hein, tant que c'est n'hésite pas. Hein.
D'ailleurs, le judaïsme, c'est le thème, c'est même pas un thème, c'est le sujet que vous abordez dans le texte que l'on peut retrouver, par exemple, dans le recueil de textes de chez Marie-Laure Dagua, dans Ombre Mort, il est question de ce sujet.
Ouais, parce que Ombre Mort parle de mon père en partie. Ombre Mort, alors pourquoi Ombre Mort aussi, le titre? Dans la version, dans la traduction de Cherokee, il y a ça d'ailleurs.
Ouais.
Ombre et mort en hébreu, c'est à peu près le même, c'est le même mot. Donc dans la vallée de l'ombre de la mort, ombre mort, c'est le même mot. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais vous savez, je suis pas un intellectuel.
Ça n'a rien à voir avec ça.
Mais ça expliquera peut-être pourquoi. On va vous écouter pour deux titres.
Deux autres titres.
Et je crois qu'il y a le psaume 23 d'ailleurs qui fait
justement. Ah, fallait pas le dire.
Oh. Merde. Ah, mais vous savez, Mathieu, il balance tout. Et je ne comme d'habitude.
Je vais pas aller chez les flics avec toi.
Daniel Darc, le premier titre, puisque bien sûr, il vient de donner le deuxième. Le premier titre, ce sera.
Le premier titre, ce sera. Alors, celui qui vient de dire Henri Environ, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est mon clavier. Ton de famille, j'arrive pas.
Rémi Bousseau.
Et je voudrais dire qu'à la guitare, il y a quand même
Alice Botté.
Mon vieux grognard. Il y a Alice Botté. Voilà.
Bon, bah alors Napoléon va retrouver ses grognards. Daniel Darc en direct du Café Cosité de Marseille.
Et le temps que vous alliez à votre micro, j'annonce que Daniel Darc sera en concert le 3 avril au Cabaret Électrique au Havre, le 9 à la Coopérative à Clermont-Ferrand, le 18 au Printemps de Bourges, le 25 à Marseille et le 17 mai à l'Olympia à Paris.
Alors juste le temps que Daniel Darc s'installe. Paquita, pourquoi vous nous avez rejoints aujourd'hui?
Moi j'adore Daniel Darc. La dernière fois que je l'ai vu chanter, c'était un concert de Marie-France et... apparemment, ils possédaient pas les paroles, alors ils avaient étalé tous les textes par terre.
Attends, tu fais une jump. C'est moi qui ai écrit les paroles. Elle se rappelait rien. J'ai fait le truc 1, 2, 3, 4. J'ai expliqué à Yann Péchin, qui était son mec à l'époque. Je lui ai dit, tu mets comme ça. Il a fait 1, 3, 2, 4. C'est une sorte de cut-up. Mais bon, sauf qu'elle n'a pas compris. Et moi, tel le con, j'ai voulu faire gentleman. Alors, je lui montrais comme ça. On croyait que c'est moi qui ne savais pas. C'était elle qui ne savait pas. J'ai fait ce que j'ai pu.
Ah ouais, c'était très bon.
C'est bon pour vous, Daniel? On y va? Ah bah alors, on y va. C'est parti. En direct, minuit 10, France Culture.
Presque un peu moins que rien. peu moins que rien. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée, et tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, jour, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans la maison aussi longtemps que je vivrai.
Taxi Girl, mon prénom c'est Pearl, on m'appelle Louloute. Le soir au dansinge, il faut faire le singe pour gagner sa croûte. À 7h pile, chaque soir j'enfile ma robe verte, celle en satin qui laisse les épaules découvertes. Quand les musiciens démarrent le zinzin, on ouvre la boutique. Et jusqu'au petit jour, je fais 36 tours, une vraie gymnastique. Pour un ticket, on me marche sur les pieds. Pas de danse à l'œil, prends ton portefeuille, je suis Taxi Girl.
Bon, juste un clin d'œil pour...
Et tout le monde aura reconnu...
Colette Renard. Colette Renard, oui. Taxi Girl, donc une référence... légèrement appuyé, donc au premier groupe de Daniel Darc, Taxi Girl.
Dites-moi, Pierre Binkaloff, dans votre livre, vous comparez Daniel Darc à Serge Liffard. Alors déjà,
Serge
que vous avez rencontré,
le chorégraphe.
Non, c'est-à-dire que j'aurais rêvé de me balader sur le cimetière de Venise avec Daniel Darc et Serge Liffard et d'aller ensemble sur la fleurir la tombe de Diaghilev. Parce qu'il m'est arrivé, étant teenager, d'aller avec Serge Liffard déposer les fleurs sur la tombe de Diaghilev. Le 15 août, anniversaire de la mort de Diaghilev. Et j'aurais rêvé que Daniel soit là parce que ça m'aurait semblé un moment assez...
Tout ça en rapport avec un des albums...
Avec Nijinsky, évidemment, voilà.
Nijinsky de Daniel Darc.
Là parce que moi, je vais sur la tombe de Nijinsky. Diaghilev l'a détruit.
C'est vrai.
J'imagine que les cahiers de Nijinsky... les cahiers de Nijinsky, c'est quelque chose qui est un nouveau livre de chevet, non, j'imagine,
ouais,
Daniel Darc.
Ouais. Bien sûr. C'est, de toute façon, il a une grande partie de Pierre et moi, en tout cas, ce qu'on aime dans le rock, il l'a extrêmement influencé, c'est-à-dire, c'est soi-disant Nico qui l'aura fait découvrir, mais Iggy sur scène, la moitié des poses qu'il prend, c'est les poses de Nijinsky. Bowie a écrit en pensant à Nijinsky. Voilà, c'est...
Vous parlez de pause, il y a quelque chose sur lequel il y a une formule vraiment assez forte sur laquelle que vous lancez, Pierre Mikhaïlov, c'est qu'en fait le rock'n'roll ça reste quand même à la base un garçon seul dans sa chambre qui se regarde dans le miroir
dans la glace,
et qui prend des pauses.
Ouais.
Et du coup que tout le rock'n'roll serait frappé d'une ambiguïté sexuelle.
Sexuelle, bah complètement. Enfin, je trouve que c'est à la base le rock'n'roll c'est une.
Un mouvement crypto-gay, vous voulez
dire ? Oui, complètement, mais ouais, depuis Marlon Brando, et je sais pas, il y a une imagerie complètement gay.
Bien sûr, bah, on est plus beau que les meufs, quoi.
Mais ça, c'est quelque chose...
Il y a cette anecdote très drôle, excuse-moi, il y a cette anecdote très drôle que tu m'as racontée, tu te baladais dans la rue Le Pic avec un badge de James Dean à la fin des années 70, et t'as une bande de rockabilly qui vient et qui te dit qui tu es pour porter un badge de James Dean, c'est pas pour les PD. Et tous les gens qui sont vraiment à la base de l'imagerie rock'n'roll, très souvent, ce sont des gens qui sont des homos à la base. Donc quelque part, je pense que c'est
cette
esthétique.
Mais moi, je suis bi.
Voilà.
Dit-il avec un grand sourire.
Oui, parce que longtemps, chercher le garçon, ça a été compris comme ça, en fait.
Ouais, en fait
presque un hymne, en effet, de la génération.
En fait,
80.
Quand j'ai écrit ça, c'était vraiment les débuts de J.J. Burroughs, au tout début, et j'avais pas bien compris le cut-up. Et en fait, je faisais des couplets, je cherchais un refrain qui avait rien à voir. Donc j'ai fait comme ça. Voilà. Mais en fait, je n'avais pas pensé une seconde que ça pouvait être ce truc-là.
Pas une seconde.
Enfin, non.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qui rentre plutôt dans la jambe, puisqu'on parle de couple de gay ou de bi? Votre aïeul, Rozumov, puisque c'est votre nom,
ouais,
hein,
il semblerait, Darc,
était l'amant de Tchaïkovski.
Il semblerait, ouais.
Qui vous a raconté ça, en fait? Parce que moi, j'ai recherché un petit
peu. C'est pas mon père, parce que mon père, pour lui, juif. On ne pouvait pas être pédé, c'était un peu possible. Donc j'ai lu ça et puis j'ai parlé j'ai lu beaucoup. Enfin, je sais pas, vous avez pas trouvé?
Non, on a vraiment cherché.
Je vais essayer, je vous amènerai des choses. Mais mon vrai nom n'est pas Rozum, c'est Razumov. C'est un truc aussi, peut-être.
Je voulais revenir, autre indiscrétion sur les tatouages, sur la pochette de l'album, votre album précédent, Crève-Cœur. On voyait votre bras droit avec beaucoup de dessins, et depuis quelques années, on le voit maintenant, il est saturé de peinture, il est entièrement noir.
Ouais.
C'est quelque chose, vous avez voulu effacer une partie de votre vie?
Pas du tout.
En le recouvrant?
Pas du tout. Pas du tout, mais à un moment donné, tout le monde a voulu se faire tatouer avec des petites choses, des machins, des trucs des tribaux, ils savaient pas ce que ça voulait dire, mais ils le mettaient quand même. Et moi, j'ai des amis tatoueurs qui qui m'ont dit que, qu'on leur demandait des kanji, c'est-à-dire les trucs, les lettres japonaises, et qu'on, quand, enfin, je ne citerai pas qui, mais on lui a demandé amour, il a mis haine à la place, par exemple. Et donc voilà, je crois que, par exemple, pour moi, le top de la beauté au niveau tatouage, c'est les yakuza. Mais j'ai pas le droit de porter ça, j'ai pas le droit de le faire. Et donc ouais,
j'en avais marre. Vous êtes fasciné par les japonais, par
ouais, enfin, ouais, ouais.
La pochette de Seppuku, elle évidence, ouais, c'était, ça répondait à une fascination.
Ouais. Mais j'ai changé un peu depuis quoi. Kitano pour moi c'est un des plus grands réalisateurs.
Ce qui est rigolo, c'est que ça part de 5 minutes que tu as vu d'un film de Bruce Lee à la séquence du spectateur.
Bien sûr,
et du coup ça t'amène sur
cette culture japonaise. C'est là où je me suis inscrit à mon premier cours de karaté. J'avais 13 ans, séquence du spectateur effectivement. Il est délire dans la Fureur des Dragons avec les Nunchaku.
Et c'est ça qui est beau dans le rock'n'roll et dans la culture de série Z, dans la culture qu'on considère comme cheap, c'est que ça amène vers autre chose. Tu vois, tu pars d'un film de Bruce Lee et tu arrives vers le cinéma, tu arrives vers des auteurs japonais. Même,
j'ai lu Godard, j'ai commencé à voir Godard parce qu'il y avait un film de Patty Smith qui s'appelait Cinéma pas mort, Mr. Godard.
Ouais. Ouais, donc c'est par l'Europe que vous êtes arrivé au cinéma de Godard.
J'ai tout fait par l'Europe, tout a été par l'Europe.
On a tous regardé Godard parce qu'on sait qu'il a fait un film avec les Stones, donc on s'est intéressé.
Moi, c'est parce qu'il a fait un film avec avec Brigitte Bardot.
C'est vrai aussi.
Non, même pas pour ça.
Et vous avez
fait un disque avec Chantal Goya.
Vous êtes mis à lire des auteurs engagés comme Jerry Rubin parce qu'il était cité dans une interview que vous aviez lue.
Je sais pas, comment je suis arrivé à Jerry Rubin, je sais plus. Ouais, je pense, ouais.
Vous lisez encore beaucoup d'interviews ou pas?
D'interviews?
Parce qu'il est question beaucoup dans ce livre de l'état de la presse musicale ou de la presse underground.
La presse musicale non terminée, enfin je veux dire.
Vous avez écrit en plus, hein?
Vous avez écrit dans Best, c'est ça?
Best, ouais.
Vous écriviez sur qui par exemple à l'époque?
Quand j'ai écrit sur Kim Follett, j'ai écrit sur.
Sur Johnny Cash, non?
Johnny Cash, ouais. Sur Elvis, sur. Sur Christiane.
T'avais une totale liberté.
Pourquoi vous avez arrêté l'écriture la critique rock?
Parce que pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Au bout de 6 mois, on a tout fait. Enfin, je veux dire, faut voir quoi. J'adore Jackson Pollock et je préfère Jackson Pollock à ceux qui écrivent des livres sur Jackson Pollock.
Voilà. Il y avait une.
Juste pour revenir donc sur l'histoire, parce que vous n'aviez pas fini sur l'histoire donc de ce tatouage qui a évolué jusqu'à être complètement, jusqu'à masquer tout le reste.
Oui, alors il y avait des jeunes filles qui se mettaient des petits Mickey ou des dauphins, des choses comme ça. J'ai dit non, maintenant noir, entier, tout noir.
Tout le bras est noir alors.
Tous les bras sont noirs, j'ai une croix dans le dos, j'ai une croix devant, j'ai des trucs, j'ai un singe sur l'épaule, qui veut dire le manque. Là j'ai au creux du coude.
On peut voir, que vous nous montrez.
Gauche. J'avais la trace de shoot quand je me droguais encore. Bien longtemps. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai pris Saül Bass, l'affiche de L'Homme au bras d'or. T'inquiète pas. Voilà. Et je pense que le tatouage. Et c'est pour ça que j'aime pas les piercings. Piercings, on les enlève et voilà, c'est fini. Le tatouage, ça doit vraiment être dangereux pour celui qui le porte. Voilà.
Pierre Mikhaylov, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire un livre précisément sur ce morceau, en fait, puisque vous développez ensuite tout avec Sigurd et évidemment la rencontre avec Daniel Darc et
le morceau donc, Chercher le garçon.
Chercher le garçon.
Parce que ce morceau est déclencheur et parce que ce morceau est un tube.
Est-ce déclencheur déjà chez vous, en fait.
Déclencheur de quoi
au moment où vous l'entendez?
Pour moi, c'est le début des années 80. Je suis un teenager et j'entends sur Europe 1 Chercher le garçon. Et ça ressemble à rien d'autre dans la production française. C'est une époque où on vient du son Rolling Stones, il y a Téléphone qui est numéro 1 partout. Et il y a ce groupe qui arrive, tu vois, je lis un peu Best, je lis un peu Rock'n'Fall, je sais que c'est des mômes qui viennent du 18e arrondissement, qui ont un an ou deux de plus que moi, et qui font leur truc un peu en secret, rose bonbon, etc. Et qui déboulent avec ce son complètement original. Tu vois, qui ressemble à rien par rapport à la production de l'époque. Donc forcément, t'accroches.
Sur ma tombe, tu mettras ça.
Il ressemblait à rien. Il ressemblait à rien. Vous étiez d'accord, vous, avec le son de ce morceau à l'époque ?
Pas du tout, je déteste.
Pourquoi ?
Alors, ce qui est rigolo, voilà, c'est quand tu apprends qu'en fait, voilà. C'est quand tu parles avec Daniel et que tu apprends qu'il déteste son disque, en fait.
Détestait. On s'est barré là, Laurent Sinclair et moi, ceux qui, nous deux, on avait écrit le morceau. On a voulu faire un groupe avec Fred Chichin. Et Fred Chichin, malheureusement, a dealé de la dope à deux flics en civil. Donc, il a été 2 ans en tôle. Du coup, on est revenu la queue entre les jambes en disant, bah, on va rester dans Taxi, en fait.
C'était Daniel Darc dans Minuit 10 de Laurent Goumard, une émission diffusée la première fois le 19 mars 2008 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Serait-ce le vent, serait-ce la pluie, serait-ce simplement l'ennui? Toi tu m'attends, moi je m'enfuis. Tu pleureras toute la nuit, mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge rose détruit tout chaque fois. Combien de roses à peine écloses m'as-tu offert, souviens-toi. Elles sont fanées comme ces années vécues entre toi et moi. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge, rose, détruit tout chaque fois. Est-ce au levant, est-ce dans la nuit que je dirai, je t'en prie, je t'aimais tant, ouais, mais pourtant, je crois que c'est bien fini. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge, rose, détruit tout chaque fois. Il se fout de toi et moi. Le soleil rouge, rose, détruit tout chaque fois. Il se fout de toi et moi. Où je sens, où je t'appelle.